Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Vous êtes sur Radio Kapi, il est 18h pile à Kinshasa, voici votre journal. 10 corps repêchés, bilan provisoire d'une collision des deux baleinières mardi dernier sur le fleuve Congo, non loin de Maluku à Kinshasa. Des recherches sont en cours pour retrouver les disparus et élucider les circonstances du drame. Fin hier à Kalemie de la visite de la chef de la MONUSCO. Pendant 3 jours, Bintou Keïta a conduit une délégation pour évaluer l'état d'avancement du processus de retrait de la MONUSCO du Tanganyika. Notre invité, c'est Maître Ruffin Louko, c'est avocat au barreau de Kinshasa Matete, écrivain et chercheur en droit, parle du juge naturel censé juger l'ancien Premier ministre Matata Ponyo dans l'affaire Bukanga Lonzo, la Cour constitutionnelle s'étant déclarée incompétente. Voilà pour les titres, bienvenue à tous. Madame, Messieurs, bonsoir. Au micro, Pascal Masserica, mise en onde de Jean-Claude Nsiala. 10 corps repêchés jusque-là, des disparus et des rescapés, tel est le bilan provisoire de la collision des deux baleinières mardi dernier sur le fleuve Congo. Selon la ministre Yolande Elébé, porte-parole du gouvernement provincial de Kinshasa, qui confirme la nouvelle, les baleinières Sanzana Moy et Emmanuel seraient entrées en collision vers Mambutuka en aval du fleuve Congo, non loin du confluent entre la rivière Kasai et le fleuve Congo. Elle ajoute que l'heure est à la recherche des disparus et au recoupement des informations pour savoir ce qui s'est réellement passé. Direction le Nord Kivu. En plus de faciliter les survols réguliers des scientifiques au-dessus des cratères des volcans Nyiragongo et Nyamulagira, la MONUSCO intervient et collabore avec l'OVG dans d'autres aspects logistiques pour la surveillance des activités volcaniques. C'est ce qu'indique l'expert de la MONUSCO dans le domaine. Dario Tedesco confirme qu'il n'y a aucun risque pour la population par rapport à l'activité normale du volcan Nyamulagira. Pour en parler, retrouvons à Goma Sifa Maguru.
Pour ce vulcanologue, cet appui de la MONUSCO, notamment les survols permanents des cratères à l'aide des hélicoptères, permet à l'OVG d'avoir des précisions et de comparer les données techniques des satellites avec la réalité directe dans les volcans. Dario Tedesco.
Le fait qu'on a la possibilité d'aller sous le Nyiragongo, par exemple, on est sûr qu'il n'y a pas d'activité, par exemple, même s'il y a une activité sismique. La même chose pour le Nyamulagira, que c'est encore plus difficile, parce qu'on ne peut pas y aller, on ne peut pas monter. C'est trop loin, il y a des groupes armés, c'est très difficile pour l'OVG d'y aller. La possibilité d'aller et de pouvoir rester quelques heures, voire quelques jours. On a fait des missions d'une semaine avec d'autres scientifiques étrangers qui sont venus pour épauler l'OVG. Et là, on a la possibilité de voir des choses qu'autrement on comprendrait jamais. Et ils nous donnent vraiment la possibilité de mieux comprendre les deux volcans, de faire des mesures qu'autrement on pourrait pas faire, et c'est des mesures seulement qu'on peut faire sur place.
D'après cet expert, les défis dans la surveillance de ces deux volcans, c'est qu'ils sont toujours actifs et qu'il est parfois difficile de trouver les changements des paramètres avant une éruption, comme dans le cas de l'éruption du Nyiragongo le 22 mai dernier. Pour ce qui est du plan de contingence, Dario pense que le plan existant doit être redynamisé selon les réalités des terrains, notamment la démographie et d'autres aspects. Goma Sifa Maguru, Radio Okapi.
Autre nouvelle, la chef de la MONUSCO a achevé hier mercredi sa visite de travail à Kalemie. Bintou Keïta a conduit une forte délégation qui a séjourné pendant 3 jours dans la région. Objectif, évaluer l'état d'avancement du processus de retrait de la MONUSCO amorcé au Tanganyika. Hier, la délégation a visité la localité de Kabeyamaï en territoire de Nyunzu. Un reportage de François Xavier Mibé.
C'est la localité de Kabeyamaï située à 34 km au nord du centre de Nyunzu qui constitue le point culminant de la visite de travail de la chef de la MONUSCO, Bintou Keïta au Tanganyika. Kabeyamaï regorge aujourd'hui 4 sites où vivent 3600 déplacés fuyant l'insécurité dans leur milieu d'origine. Le chef Kabeyamaï.
Si la paix revient totalement, nous avons besoin de rentrer chez nous.
Tout en restant dans les chiffres, les acteurs humanitaires présents dans la zone font état d'une situation préoccupante, voire grave. 22 000 déplacés sont enregistrés au centre de Nyunzu. 18 000 autres à Kisengo et 100 000 autres encore font un mouvement vers Nyunzu à cause de l'insécurité qui sévit dans la région. l'administrateur de territoire, Hubert Kanzavumba.
Dans le secteur sud de Lukuga, la présence du seigneur de guerre, Nyumbaisha, non encore récupéré, fait peur. Dans le secteur nord Lukuga, c'est une rébellion qui n'épargne personne.
Pour toutes ces préoccupations, la chef de la MONUSCO appelle à la conjugaison des efforts en commun, chacun jouant son rôle. Bintou Keïta.
On est tous déterminés à faire de notre mieux, mais nous avons besoin que l'administration du territoire et tous ceux qui concourent à la sécurisation fassent aussi leur travail.
Territoire de Kabeyamaï, François Djabemide, Radio Kapi.
Au sud Kivu, pendant 7 ans, deux patrouilles de longue portée ont été organisées hier mercredi à Kaololo dans le groupement de Muhungu et à Muramvia dans celui de Bijombo dans les hauts plateaux d'Uvira. Objectif, évaluer la situation sécuritaire et humanitaire. À Uvira, une correspondance de Fiston Gomamayabala.
Muramvia, situé à 25 km au nord de Bijombo Centre, plus de 20 personnes ont révélé que les FRDC ont arrêté 3 civils à Irango et demandent l'équivalent des $100 américains avant de les relâcher. Les acteurs locaux ont dénoncé 8 barrières érigées sur les chemins qui mènent de Muramvia dans les hauts plateaux vers la ville d'Uvira, où les passants payent par force chacun 1000 francs congolais. Les femmes ont témoigné qu'elles avaient peur lorsqu'elles allaient ramasser du bois de chauffage. Ces acteurs locaux ont été sensibilisés sur le mandat de la MONUSCO. Du côté Kaololo, des consultations promptes ont été organisées dans les villages Mugono et Nyakandongo. 3 bergers rencontrés sur place ont révélé que la situation sécuritaire était relativement calme. Cependant, sur le chemin du retour, il a été observé un mouvement d'hommes armés présumés Tuguaneo qui se dirigeait vers Birindiro. Ces combattants revenaient de Masango pour escorter des habitants qui allaient chercher des denrées alimentaires dans les fermes abandonnées dans la zone d'influence Maïmaï à Masango. Mardi dernier, la MONUSCO et les FRDC se sont réunis à Bijombo Centre pour prendre des mesures anticipatives conjointes de protection des civils et éviter les débordements de la crise des Mikenge à Bijombo. Les chefs des villages sont priés de sensibiliser les habitants à ne pas sortir pendant les petites heures et après le coucher du soleil. D'Uvira, Fiston Gomamayabala, Radio Kapi.
Revenons ici à Kinshasa où les caucus des députés de l'Ituri et du Nord Kivu qui ont refusé de participer à la 12e prorogation de l'état de siège ont rencontré hier mercredi le président de la République Félix Tshisekedi Tshilombo à qui ils ont soumis les revendications de la population à propos de l'insécurité dans l'est de la RDC. Un élu de Bunia a affirmé que le chef de l'État a accepté de donner une réponse positive, insistant sur une sincère collaboration pouvant permettre à l'est du pays de retrouver la paix. Il a également promis d'aller en Ituri, au Nord Kivu et au Sud Kivu pour s'enquérir de l'évolution de la situation. On écoute Gratien Irachan au micro de Michel Kifindangoy.
Le chef de l'État a répondu positivement à toutes les revendications des députés et bien sûr, il a affirmé que les élus du Nord Kivu comme de l'Ituri ne sont pas contre l'état de siège, mais en fait contre les animateurs de l'état de siège. Et cela, ça se montre par les résultats qui deviennent mitigés de plus en plus, tout simplement parce qu'il y a des acteurs qui font en sorte que l'état de siège ne porte pas de bons résultats. Les députés espèrent que toutes les résolutions de cette rencontre auront gain de cause. Évidemment, le chef de l'État a reconnu que c'est une expérience amère qu'il faut assumer jusqu'à ce qu'il y ait la paix à l'Est. Le président Félix Tshisekedi a promis de bousculer les lignes, adoptant une attitude positive face à notre revendication. Et c'est vrai qu'il cherche aussi à ce qu'on déniche tous ceux qui sont en train de collaborer avec les forces négatives afin qu'on puisse les déférer devant les juridictions compétentes.
Affrontement hier mercredi après-midi en Ituri entre les FRDC et des miliciens de la CODECO au centre commercial de Drodro dans le territoire de Djougou. Selon des sources sécuritaires, ces assaillants ont pris pour cible le site de déplacés qui héberge environ 8000 familles. Mais ces assaillants ont été repoussés par les FRDC avec l'appui des casques bleus de la MONUSCO. De nombreux déplacés et d'autres habitants ont trouvé refuge à la base de la MONUSCO à Ro. Le récit d'Ezekiel Mouzali.
Depuis environ une semaine, la présence des miliciens de la Codeco est signalée aux alentours de la localité de Drodro qui abrite un hôpital général, le couvent des prêtres et le site des déplacés. Plusieurs tentatives d'attaque de ces groupes armés Codeco ont été étouffées par l'armée. Hier mercredi, dans l'après-midi, ils ont surpris une position des FARDC sur place. Des tirs nourris ont retenti pendant quelques heures dans cette entité, affirment des sources de sécurité. Les forces loyalistes, avec l'appui des casquets bleus de la MONUSCO, ont réussi à écarter la menace de ces miliciens contre les sites des déplacés et l'hôpital. Le président de la société civile locale indique que cette situation a créé une panique dans la zone. Certains malades, dont des femmes enceintes qui étaient sous traitement à l'hôpital des Drodro, ont abandonné leur lit pour se sauver. Charité Banza ajoute qu'au site des déplacés, c'était la débandade totale. Presque 8000 familles se sont dispersées, les unes dans la brousse et d'autres ont trouvé refuge dans une base de la MONUSCO à Ro, à une dizaine de kilomètres du lieu du drame. Le bilan de ces affrontements n'est pas encore connu, mais l'armée maintient la pression sur l'ennemi pour pacifier la zone. Bounia, Ezekiel Mouzalia, Radio Okapi.
Partons maintenant pour la Tchopo où la Sotexki est en passe de fermer ses portes si l'on y prend garde. En cause, la suspension de l'acte juridique qui lui permet d'accéder aux mesures incitatives prévues par le partenaire stratégique sur la chaîne de valeur. Le directeur général de Sotexki affirme qu'en dépit de l'ordonnance du Conseil d'État en référé de suspension, la Direction générale des douanes et accises ne veut pas s'exécuter. Ceci a été révélé hier mercredi à l'auberge de la Sotexki lors d'un dîner d'affaires organisé par la FEC. C'était en présence du gouverneur intérimaire de la Tchopo, Maurice Abibou Sakapela, à Kisangani, Jacques Mkongole.
Ce dîner d'affaires a été placé sous le thème « Ensemble, sauvons la Sotexki ». En l'organisant, la FEC Tchopo a voulu interpeller les opérateurs économiques locaux pour la recherche des voies et solutions devant permettre la relance des activités de cette entreprise. Le président intérimaire de la FEC Tchopo, Tip Tambodou Kongo.
Solliciter l'implication active des acteurs de tous bords dans cette noble mission qui est celle de sauvegarder les intérêts de la Sotexki et booster la relance de cette activité économique.
La non-exécution de l'ordonnance du Conseil d'État par la DGDA empêche donc la Sotexki à installer son nouvel équipement technique, ce qui aurait pu lui permettre de relancer sa production, déplore le professeur Glombert Loco, son directeur général.
Si nous mettons en œuvre cet équipement, une fois installé, nous allons remonter cette production qui est toujours à 65 mm à 211 mm et comme c'est un processus qui est graduel, nous pourrons arriver jusqu'à 300 mm de passer parce que l'objectif est d'atteindre 900 mm.
Pour sa part, le gouverneur des provinces a promis de constituer une délégation mixte, gouvernement provincial, assemblée provinciale et la Sotexki, laquelle devra se rendre à Kinshasa pour plaider en faveur de cette entreprise. Jacques Mkongole, Kisangani, Radio Okapi.
Au sud Kivu, le gouverneur fixe l'opinion publique sur les frais scolaires dans les écoles maternelles et secondaires par un arrêté rendu public le 16 novembre à Bukavu. Teongwa Bijekasi fixe le seuil à $3 américains et le plafond à $90 américains par trimestre. Question. Comment cet arrêté du gouverneur est perçu dans la ville de Bukavu? Tentative de réponse avec vous, Jean Kassam Ibarra Libirou.
Pour certaines personnes, l'arrêté tombe à pic parce qu'il va contribuer à décanter la grève des enseignants. D'autres y voient le retour en force de la prime des tristes mémoires. Mugisho Maître enseigne dans une école publique de Bukavu.
Grâce à cet arrêté, ça permet que ceux qui ne sont pas payés aussi puissent avoir quelque chose, bien que ça vienne des mains des parents.
Les parents redoutent que les gestionnaires des écoles fixent les frais en recourant uniquement au plafond en cette période où les économies de plusieurs ménages sont déstabilisées par l'épidémie à coronavirus.
Ça ne nous surprendra pas de voir que cet arrêté ne soit pas respecté par le chef d'établissement, parce que même pendant la période des examens, l'arrêté du gouverneur a toujours été bafoué.
Tout contrevenant à l'arrêté portant fixation des frais scolaires des élèves dans les écoles publiques et privées agréées et coopéra des sanctions. Yoï Bokete, provède de la province éducationnelle Sud Kivu 1.
Parce que l'arrêté est clair, il est stipulé que par rapport aux besoins des écoles, les frais sont fixés de $3 à $90.
Les enseignants des écoles primaires du Sud Kivu eux, attendent les résultats des assises de Kisantu pour dire leurs derniers mots. Bukavu, Jean Kassami, Radio Okapi.
Dans le Maïndombé, le directeur de la prison centrale d'Iombé plaide pour la réhabilitation de cet édifice devenu vétuste. Joseph Lilengue redoute l'écroulement des murs déjà fissurés sur les détenus. Il alerte également sur les manques de nourriture et des soins médicaux pour les prisonniers. À Bandundouville, Irène Mboma.
Construite depuis 1903, la prison centrale d'Iombé, située dans la ville d'Inongo, n'a jamais bénéficié d'une quelconque réhabilitation. À l'heure actuelle, ce bâtiment vétuste se trouve dans un état de dégradation trop avancé et même plusieurs murs ont déjà cédé. Il ne reste que deux pavillons où sont logés tous les 87 détenus, dont trois femmes. Le directeur de cette maison carcérale qui alerte indique que ces prisonniers risquent de perdre un jour leur vie à la suite du probable écroulement des bâtiments restant, surtout en cette période pluvieuse. Joseph Lilengue Isanke m'appelle pour la reconstruction de cette prison.
Vraiment, quand vous voyez les bâtiments, l'état est vraiment avancé. Il n'y a pas de mur, il n'y a pas de fenêtre. Presque tout est détruit. Vraiment, on est toujours aux autorités, aux hommes de bonne volonté, aux politiciens, aux fonctions religieuses et surtout le MONUSCO. Bien, ne plus que pour la construction du bâtiment. Une vieille prison, depuis 1903. Vraiment, nous travaillons dans les politiques. Nous sommes dans le risque. Un jour, on va connaître un groupe de prisonniers perdre leur vie.
Outre cette difficulté, Joseph Lilengue Isanke m'a signalé aussi d'autres difficultés, notamment d'ordre alimentaire et médical, dans la prison centrale d'Iombé. Irène Mboma, Bandundouville, Radio Okapi.
Actualité internationale.
Au Soudan, les violences des forces de sécurité contre des manifestants sont tout à fait honteuses. Déclaration faite ce jeudi matin par la haute commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme après les violences d'hier à Khartoum, la capitale. Dans un communiqué publié ce jeudi, Michel Bachelet qualifie d'inacceptable les tirs à balles réelles effectués contre les manifestants alors que les militaires étaient prévenus à ne pas faire usage d'une force disproportionné contre des manifestants. Et puis un avion a décollé ce jeudi de Minsk pour Bagdad avec à son bord des migrants qui s'étaient déjà retrouvés bloqués à la frontière entre la Biélorussie et la Pologne, a indiqué l'aéroport de la capitale biélorusse. Au total, 431 personnes étaient à bord de cet appareil de la compagnie Iraq Airways, selon un représentant de la diplomatie irakienne qui a été cité par la agence Interfax. Emmanuel Macron sera reçu par le pape François le 26 novembre prochain à Rome, a annoncé ce jeudi l'Élysée peu avant sa visite en Croatie. Il s'agit de la deuxième visite du chef de l'État au pape depuis le début de son quinquennat après celle de juin 2018 à Rome. Emmanuel Macron, chef de l'État français, signera également le traité de Quirinal franco-italien.
L'invité.
Notre invité, ce maître Ruffin Louko, c'est avocat au barreau de Kinshasa Matete, écrivain et chercheur en droit, parle du juge naturel censé juger l'ancien premier ministre Augustin Matata Ponyo et deux anciens co-prévenus dans l'affaire Boukangalonzo. La cour constitutionnelle s'étant déclarée incompétente de les juger. Il s'entretient avec Jeff Ngoy.
Maître Ruffin Louko, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Est-ce que l'affaire du procès de Boukangalonzo, dans laquelle était poursuivi l'ancien premier ministre Augustin Matata Ponyo, peut être considérée comme classée sans suite et qu'il est impossible à ce jour de juger les trois prévenus?
Merci beaucoup. Mais d'abord, classée sans suite, bon, évidemment, c'est un terme courant, mais ce n'est pas un terme de juge. Celui qui classe sans suite, c'est le parquet. Donc le juge, lui, ne classe pas sans suite. Et si le juge examine une accusation et qu'il trouve que les faits ne sont pas établi, il fait ce qu'on dit, la décision d'acquittement, et il y renvoie des fins de poursuite. Ça veut dire la personne est renvoyée, ne pourra être poursuivie. Le juge a décliné sa compétence. Le dossier est encore entre les mains du parquet pour maintenant chercher le juge compétent.
Et est-ce que c'est un procès impossible? Il n'y aura plus rien? Les trois anciens prévenus ne seront plus jugés?
Non, mais c'est d'abord, nous ne sommes pas d'accord avec l'arrêt de la Cour constitutionnelle. Cet arrêt-là manque d'imagination.
Le droit a été dit.
Bon, le droit a été dit d'abord dans ces procès-là, la République
est dure, mais c'est la
République qui est la première victime n'a pas été représentée. représenter.
Mais comment expliquer tout cela?
Alors donc tout ça, il n'y a aucun texte. C'est une vieille jurisprudence de la Cour suprême qui disait que non, devant la Cour suprême, il n'y a pas de constitution de parti civil. Il faut attendre. Mais cette constitution par parti civil, c'était les partis civils ordinaires. Est-ce que la République aussi est une partie civile qui doit être rangée au même titre que les autres, notamment dans une matière spécifique de détournement et de corruption? C'est une question doctrinale. Il n'y a aucun texte de loi qui exclut. Cette jurisprudence a commencé avec les décisions de prise à partie. Lorsqu'on condamnait les magistrats pris à partie, on demandait que celui qui bénéficie de cette prise à partie ou le magistrat, pour demander des dommages et intérêts, il doit aller en grande instance. Et depuis, la jurisprudence s'est consolidée que non, devant la haute juridiction, il n'y a pas de constitution de parti civil. C'est ainsi que la défense s'est retrouvée dans un boulevard. Il y avait en face de la défense un ministère public qui n'a pas été à la hauteur de ce que la République attend de lui. Ce qui fait que la défense avait une sorte de boulevard. Rappelez-vous que le conseil qui a soutenu toutes ces exceptions-là a été balayé dans le procès d'Ikapende pour une exception qu'il a été opposée par le président de la Cour constitutionnelle qui, à l'époque, était avocat. C'était que ce conseil-là est avocat de la République et il ne peut pas comparaître dans des intérêts contre la République. Et c'est le même conseil
le
maintenant.
Le procès de 100 jours.
Le procès de 100 jours, c'est récent. Rien n'a changé. Donc tout cet ensemble-là, ça veut dire que l'absence de la République dans ce procès-là a été préjudiciable. Maintenant, on va fixer l'affaire qui est le juge naturel de Matata Ponyo. Matata Ponyo, maintenant, comme on dit qu'il est maintenant ancien Premier ministre, actuellement, Matata Ponyo a des qualités qui sont connues officiellement. Les autres, peut-être, peuvent se cacher, mais il a des qualités connues. Matata Ponyo est sénateur et le juge naturel des sénateurs et des députés, c'est la Cour de cassation, hier la Cour suprême. Matata Ponyo également enseignant, il a soutenu une thèse à l'IPC.
Il est
professeur d'université, ça veut dire il a l'équivalent du grade de directeur. Le juge naturel des directeurs de l'administration publique, eh bien, c'est la Cour d'appel. Il y a donc des juges naturels, mais le juge naturel des faits, des détournements, des corruptions et consorts, c'est le tribunal de grande instance, comme il a été le cas pour Vital Kamerhe. Maintenant, il y a donc trois juges naturels. Il y a le juge naturel des faits, le tribunal de grande instance. Il y a le juge de la qualité, comme on appelle la compétence personnelle, par rapport à Matata Ponyo, qui est professeur d'université, c'est la Cour d'appel. Mais Matata Ponyo, sénateur, c'est la Cour de cassation.
Non, s'il faut le juger, il faut le juger en quelle qualité?
Il faut le juger à la qualité qui a prééminence sur l'autre, c'est la qualité de sénateur. Parce que cette qualité-là est protégée parce
mais
que là,
il les, est faits, les faits reprochés, il ne les a pas commis en tant que sénateur.
Voilà,
en
donc c'est en tant qu'ancien Premier ministre. Maintenant, la qualité de Premier ministre tombe parce que la qualité de Premier ministre, l'ancien Premier ministre, le rend justifiable devant le grand essence. Maintenant, lorsqu'on le ramène en grand essence, le grand instance se trouve bloqué par le fait qu'il est maintenant professeur d'université. Il a l'équivalent de directeur. On ramène à la Cour d'appel. Lorsqu'on l'amène à la Cour d'appel est bloquée par le fait qu'il est sénateur. La Cour d'appel ne peut pas juger le sénateur.
Donc, il est impossible de le juger.
Non, mais c'est la Cour de cassation maintenant qui reste. Celle qui va gérer cet ensemble de couvertures, de parapluies autour
comment
de Matata Ponyo.
Sur le plan judiciaire, sur non, le plan de droit.
Nous avons une jurisprudence abondante. La solution va sortir de la jurisprudence. Des cas que la Cour suprême, depuis 69 jusqu'à aujourd'hui, a déjà jugé dans ces matières-là.
Une loi, la loi de 2018, qui protège tous les anciens présidents de la République et tous les anciens chefs des corps constitués. Cette loi leur accorde protection et avantages.
Nous avons plusieurs arrêts de la Cour suprême, de la Cour de cassation, qui avaient déjà posé que les cours et tribunaux, il y a même des textes de loi qui ont confirmé ça, que les cours et tribunaux, la Constitution le dit, que les cours et tribunaux n'appliquent la loi que pour autant qu'elle soit conforme à la Constitution. Donc si la loi est manifestement non conforme à la Constitution, les cours et tribunaux ne sont pas tenus.
Ah, mais comment vous les mettre le procès Bukangalonzo n'est pas impossible.
On ne peut pas conclure à l'impossibilité de ces procès-là parce que tout simplement, il faut l'imagination.
On peut les appeler anciens prévenus.
Ils restaient à la disposition de celui qui les a amenés, ça veut dire les parquets. Voilà, donc match est cité.
Merci.
C'était l'invité de Radio Okapi, Maître Ruffin Louko, avocat au barreau de Kinshasa-Matete. Il s'entretenait avec Jeff Ngoy. Et c'est la fin de cette édition d'information sur Radio Okapi. Merci de l'avoir écouté. Merci à Élise Chikota Mwamboui, Alain Irungmouchi, GP l'équipe et Lamondo qui m'ont accompagné. Retrouvez ce journal sur www.radiookapi.net.